16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Dans Historiquement vôtre, on raconte l'histoire, mais sans jamais se la raconter. Et des histoires, elle adore nous en raconter. Elle connaît tout sur tout, surtout sur les gens. Ce qu'elle vit dans l'intimité des grandes de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Mais vous voulez dire avec quelques toiles d'araignée, si je comprends bien.
Mais pas oui. Non, pas du tout, pas du tout. Vous êtes au contraire, vous avez eu la chance d'être dans le lit de Marie-Antoinette.
Oui, voilà. Alors, du coup, je peux vous dire de façon certaine qu'en effet, elle avait. Enfin, non, elle avait quelques montres.
Alors, ah bon, d'accord.
Ses aventures françaises débutent à peu près au même moment que celles d'Abraham Louis Breguet. Elle était sa reine, il était son horloger, il était juste un petit peu plus âgé qu'elle, il avait 8 ans de plus qu'elle, et tous les deux n'avaient pas 15 ans quand ils ont quitté leur pays natal. Lui, il a quitté le petit village de Verrières, en Suisse,
bien
vous devez connaître ça
par
cœur.
Vous connaissez le petit village
je connais bien Breguet, oui, bien sûr, je les salue.
Ah, très bien.
Et alors, il a quitté Verrières pour suivre à Versailles un apprentissage d'horloger, et elle, on le sait évidemment, elle a dû renoncer à tout jamais à son Autriche natale pour venir épouser... Le 16 mai 1770, le dauphin Louis, futur roi de France. Alors, dès 1780, Louis XVI et Marie-Antoinette, qui raffolaient des garde-temps, on appelait ça des garde-temps plutôt que des montres.
C'est beau, hein.
Vous voyez, mon garde-temps. Bon, et ils ont commandé à Louis Abraham deux premières montres, et on sait que Marie-Antoinette possédait notamment une montre perpétuelle avec un dispositif de remontage automatique, ce qui pour l'époque était quand même déjà quelque chose de très moderne. Et puis, il y a une troisième montre qui est donc commandée à Breguet. C'est la montre dite à très grande complication, la montre 160, qui devait incorporer tous les perfectionnements connus à l'époque.
Alors ça, Stéphane, si vous voulez me faire un beau cadeau d'anniversaire, la montre grande complication 160
si vous...
de chez
Breguet. Alors là, vous savez, ça va être compliqué.
Ça serait quelque chose d'assez beau.
Elle est constituée de 823 composantes et serties de saphir. Donc, Stéphane, si vous voulez offrir ça à Mathieu,
ça va vous... Je me demande si M. Lagardère lui-même a les moyens.
Je me demande qui a les moyens de
faire ça. Il va falloir vendre votre abbaye, là. Hein. Alors,
est-ce que je peux vous poser une question sans vouloir vous interrompre, évidemment? Mais jusqu'alors, on avait des horloges qui étaient des garde-temps, mais posées comme ça sur un piédestal.
À quel moment ça devient,
Mais c'est justement Breguet, la première montre bracelet.
Ouais.
Et
on
ce qui est marrant,
date,
c'est que le premier... Je pense que c'est au 18e, parce que la première boutique Breguet se trouvait justement sur le quai de l'horloge. C'est quand même un drôle de hasard, le quai de l'horloge à Paris, où se trouvait la première horloge parisienne, vous savez, celle sur laquelle sur le palais de justice, près de la conciergerie. Celle où
exactement.
Il y a les armes de François Ier. Mais avant, les gens avaient des clepsydres, se jugeaient de l'heure au soleil.
Comme dans Fort
Boyard. Maintenant, il y a des horloges partout dans Paris. Enfin, l'heure est présente partout. Mais à une époque, ça constituait un vrai problème de savoir l'heure dans la journée. Alors, on se fiait certainement, plus au soleil et aux clepsydres. Ça ne devait pas être bien pratique.
Et on se fiait surtout aux horaires donnés par les clochers
des églises. Bien sûr,
les
cloches, avec l'Angélus le matin, à midi, etc. Alors, du coup, on est... Nous. Alors oui, cette montre a très grande complication. Son commanditaire est resté anonyme. En fait, c'est soi-disant un officier des gardes de la reine qui aurait commandé cette montre. Mais évidemment, un officier des gardes de la reine n'aurait jamais eu les moyens de s'acheter une montre pareille. Hein, parce que cette montre est considérée comme une des 5 montres les plus compliquées au monde. C'est vraiment un bijou, un trésor absolu. Alors on pense que peut-être c'est Marie-Antoinette qui l'aurait commandé en cachette pour l'offrir à Louis XVI, qui était un grand fanat de montres. Mais ça, de toute façon, ça restera à jamais un mystère. Et de toute façon, ni Louis XVI, ni Marie-Antoinette, ni même Abraham Louis Breguet ne verront jamais ce chef-d'œuvre. Oui, parce que sa mise au point va prendre... Vous avez une idée de combien de temps il a fallu pour faire cette montre?
15 ans.
40 ans. Commencée en 1783, la numéro 160 ne sera terminée après plusieurs interruptions qu'en 1827, par le fils d'Abraham Louis, c'est-à-dire 44 ans exactement après avoir été commandé. Bon, entre-temps, il y avait quand même eu la Révolution, bien sûr, mais enfin, tout de même. Et cette montre, elle est donc passée de main en main et elle est volée. Ah non, il y a toute une histoire rocambolesque autour de cet objet. Elle a été volée en 1983, dans un musée israélien, avec tout un lot de montres et d'objets. Et malgré tous les efforts d'Interpol...
On ne sait pas où c'est.
Pendant 24 ans, elle a complètement disparu. Et puis elle a refait surface en 2007, parce que probablement les voleurs ont dû convenir d'un échange en sonnant et trébuchant pour restituer les... Eh bien, les retourner au musée de Jérusalem. Alors, entre-temps, Nicolas Hayek, dont vous parliez tout à l'heure, Stéphane, qui était à l'époque président de la Société des Montres Breguet, a mis ses horlogers au défi de reproduire l'objet. Et même des horlogers contemporains qui disposent de techniques bien plus, évidemment, bien plus modernes, ont mis quand même 3 ans pour parvenir à dupliquer la montre. Alors, à ce moment-là, ne restait plus qu'à trouver un écrin digne de recevoir la montre. Or, l'occasion se présente en 2004, parce qu'il y a le fameux chêne de Marie-Antoinette, enfin un chêne dans le parc de Versailles, dont on considère que c'était son arbre préféré, au pied duquel elle venait se reposer.
Et le chêne est abattu par la tempête
exactement,
de 99.
Entre la tempête de 99 et la canicule de 2003, le chêne allait être abattu. Et donc Hayek a sollicité à l'époque le ministre de la Culture, qui était Christine Albanel, en disant « Écoutez, donnez-moi 1 ou 2 mètres cubes du bois de ce chêne de Marie-Antoinette pour faire un écrin pour la montre à très grande complication ». Donc, il y a 2 écrins qui ont été confectionnés à partir du chêne de Marie-Antoinette. Un premier assez sommaire et le second confectionné avec 1000 fragments de bois disposés très artistiquement et qui représente une main tenant une rose. En fait, c'est un détail du portrait de Marie-Antoinette à la rose.
Par Madame Vigée-le-Brun.
Exactement. Et donc, la montre a été présentée au château de Versailles en 2008 à l'occasion de l'inauguration du petit Trianon. Et ainsi que le disait Stéphane tout à l'heure, on avait d'abord demandé à la société Breguet de restaurer 1 ou 2 statues au petit Trianon. Et finalement, elle a pris en charge l'intégralité du budget de restauration du petit Trianon, ce qui à l'époque, c'est 2008, hein, et ça représentait 5 millions d'euros. En tout cas, cette histoire de monde, de Breguet et de Marie-Antoinette, c'est une belle histoire de fidélité et de loyauté, parce que pour la reine, il a inventé cette montre qui a été une des plus coûteuses et des plus compliquées de tous les temps. Mais c'est également lui qui réalisa pour Marie-Antoinette, déchue et prisonnière au temple, la petite montre en acier, toute simple, sur laquelle la malheureuse reine vit s'égrener inexorablement les dernières minutes jusqu'à ses tout derniers instants.